Les prix sont totalement irrationnels. On a atteint la semaine dernière 1000 euros le mégawattheure, c'est-à-dire que l'électricité est plus chère que le Chanel numéro 5. Et donc, toute l'économie peut en pâtir s'il n'y a pas des réponses données rapidement.
Voilà, ça a le mérite d'être clair. Au moins, c'était le constat hier soir de l'ancien directeur général d'Engie, Jean-François Cirelli, au micro d'Edwige Chevrillon. Et justement, donc, nouvelle réunion de crise au sommet de l'État, tout à l'heure à l'Élysée, à 10h, Conseil de défense sur l'énergie. Une première. Bruno Le Maire fera partie du tour de table et Bercy, bien évidemment, veut à tout prix limiter la casse sur les entreprises. Thomas Asportas.
0,5 points de PIB, c'est ce que pourrait coûter la crise de l'énergie à l'économie française l'année prochaine et les dégâts pourraient même monter jusqu'à 1 point de croissance si cette crise ravage l'économie de notre premier partenaire industriel, l'Allemagne. Alors pour éviter d'en arriver là, Bercy veut à tout prix empêcher que les usines s'arrêtent parce que l'énergie coûte trop cher et les premiers exemples sont déjà là. Duralex s'arrête 4 mois à cause des prix d'MC Arc International qui met ses salariés au chômage partiel 2 jours par semaine et le phénomène prend de l'ampleur puisque d'après Bercy, les industriels ont réduit ces dernières semaines leur consommation de gaz de 15 à 20%, c'est bien le signe que la production industrielle est en train de s'essouffler. Pour contrer le phénomène, Bruno Le Maire promet qu'il va simplifier de toute urgence les aides de l'État pour payer une partie des factures d'énergie des entreprises. Aujourd'hui, ces aides sont un flop, à peine 500 000 euros distribués sur une enveloppe de 3 milliards, parce que ces aides sont trop compliquées à obtenir. Enfin, sur la question des rationnements, ça reste le scénario du pire, mais l'exécutif est prêt. Bercy nous dit que 2300 entreprises industrielles seraient concernés. Le ministère de l'économie a déjà discuté avec chacune d'entre elles et Bruno Le Maire nous confirme également que trois grands types d'activités seraient épargnés par d'éventuelles coupures. Les secteurs vitaux, la santé, les télécoms ou encore l'armée. Les activités qui porteraient atteinte à l'environnement en cas d'arrêt et enfin les secteurs où les coupures provoqueraient de la casse industrielle.
Et évidemment, pour éviter ces fameuses coupures, c'est le branle-bas de combat dans un certain nombre de secteurs de l'économie. C'est le cas dans les data centers, particulièrement énergivores. Ils seront reçus aujourd'hui à Bercy. La filière va faire des propositions pour participer à l'effort de réduction de la consommation. Simon Tenenbaum.
Les data centers se préparent au pire pour cet hiver. La priorité, c'est de remplir au maximum les cuves de fioul pour alimenter des générateurs en cas de coupure. Le leader français, Data 4, qui opère 17 data centers dans l'Hexagone, sera par exemple capable de tenir pendant une semaine contre 72 heures en temps normal. Il va même remplir les cuves de 4 data centers encore en construction pour faire des stocks supplémentaires. Idem chez Orange ou Equinix, le numéro américain qui évoque 90% de remplissage. Mais l'idée est aussi de participer à l'effort de guerre. Alors que les data centers consomment environ 2% de l'électricité en France, la filière propose une mesure choc, passer volontairement tous les data centers sur groupe électrogène, en début de soirée par exemple, en cas de tension sur le réseau électrique. En contrepartie, les data centers demandent à être reconnus comme infrastructures critiques, notamment pour être fournis en fuel en priorité. Secouée par la crise énergétique, la filière réclame aussi au gouvernement une nouvelle hausse de la part d'électricité nucléaire bon marché vendue par EDF pour amortir le choc de la flambée des prix.
Et on a un premier bilan de l'impact du bouclier tarifaire sur les hausses de prix grâce à l'INSEE qui a fait évidemment une étude. La France affiche le niveau d'inflation le plus faible de la zone euro, c'était ce que disait le gouvernement. Alors Thomas Schnell, est-ce que c'est vrai?
Oui, puisque sans ces mesures, l'inflation aurait pu être 3,1 points plus élevée et atteindre 8,4%, presque autant qu'en Allemagne. Dans le détail, sur le deuxième trimestre, on est à plus 5,3% d'inflation et la hausse des prix de l'énergie contribue à hauteur de 3,1 points. Mais sans les mesures du gouvernement, eh bien, les conséquences de cette augmentation auraient pesé le double.
Ce bouclier est donc efficace. Est-ce qu'on a les détails?
Oui, tout à fait. Si on commence par le gaz, le gel des tarifs réglementés a évité une hausse de 47% des tarifs entre octobre 2021 et juin 2022. Côté carburant, cette remise de 18 centimes à la pompe a limité l'augmentation des prix des carburants à 34%, alors que ça aurait été plus 46% sans cette mesure. Le plafonnement des tarifs de l'électricité n'ont augmenté que de 4%, on le sait. Mais si on avait suivi la formule habituelle de la Commission de régulation de l'énergie, eh bien ces tarifs auraient augmenté de 35,4%. Enfin, pour les entreprises qui dépendent, elles, plus que les ménages de l'électricité, l'énergie ne s'est renchérie que, entre guillemets, de 20%. Ça aurait été plus 50% sans le bouclier. Globalement, entre les deuxièmes trimestres 2021 et 2022, en cumulant la flambée de l'électricité, du gaz, des produits pétroliers, eh bien les prix de l'énergie augmentent de 28% pour les ménages. Une hausse qui aurait été deux fois plus élevée sans les mesures du bouclier, plus 54%.
Oui, mais Thomas, si on regarde les mois qui viennent, le pire est peut-être devant nous.
Oui, l'INSEE s'attend à une nouvelle augmentation de l'inflation d'ici un à deux trimestres. D'abord parce que les entreprises n'ont sans doute pas encore répercuté la totalité des hausses des coûts des intrants sur leur prix de vente et que les ménages ont pu jusque-là reporter leurs achats sur des produits moins touchés par l'inflation. Ce à quoi il faut ajouter la baisse de l'efficacité de ce bouclier tarifaire puisque les coûts de production vont probablement augmenter, emporter par la hausse à venir des salaires, une augmentation de la rémunération précisément pour faire face à la hausse des prix.
Merci Thomas, c'est l'un des dossiers industriels de cette rentrée. Renault et son projet de scission en deux pôles, l'électrique en France d'un côté, le thermique à l'étranger de l'autre. Et sur le thermique, Renault pourrait s'associer à Saudi Aramco et au chinois Geely pour produire les moteurs de demain. En Europe, la fin des ventes de véhicules thermiques est prévue pour 2035, mais de là à enterrer les voitures à essence, il y a un gros pas qu'on n'a peut-être pas franchi. Nathan Campo.
Peugeot, Mercedes, Ford, la plupart des constructeurs seront prêts pour la fin du thermique en 2035. En Europe, car du côté de l'Asie, ils pourront poursuivre leur production, avec toujours de belles ventes en perspective, comme nous l'explique Julien Bonnet, journaliste automobile.
Au niveau des ventes mondiales, les projections du cabinet Alix Partners, par exemple, elles prévoient qu'à horizon justement 2035, on aurait seulement 50% de ventes de voitures électriques parmi les voitures neuves dans le monde.
Et c'est sans compter la croissance poussive de l'électrique, avec des matières premières essentielles, en ce moment toujours plus rares et plus chères.
On a vu en effet avec la crise du Covid, encore la pénurie de semi-conducteurs ou la guerre en Ukraine, que ces matières premières, elles ont vu leurs coûts fortement augmenter. Et en fait, avec cette hausse des coûts, on aurait une baisse finalement de la demande pour les véhicules.
Dans cette configuration, il faudra donc aussi parier sur la technologie qui permettra de faire du thermique moins polluant qu'aujourd'hui.
Et puis chez Volkswagen aussi, on commence à croire au futur du thermique puisque Herbert Diess, qui avait négocié le virage de l'électrique à marche forcée, est remplacé par Olivier Blum, qui a pris les rênes du groupe hier. Il semble plus modéré, il compte, dit-il, lui aussi accélérer sur l'électrique, mais seulement là où cela est possible, c'est ce qu'il dit.
C'est le grand salon de l'électronique grand public, l'IFA de Berlin. Il a ouvert ses portes hier. Évidemment, Tech & Co est sur place pour vous faire découvrir toutes les nouveautés du moment. François Sorel, vous êtes arrivé hier soir à Berlin. François Sorel qu'on retrouvera tout à l'heure parce que c'est loin. On le retrouvera tout à l'heure. On sent qu'il y a eu un avant et après Covid. Il nous racontera ça un peu plus tard.
Et oui, on ira dans d'ici une demi-heure ou une heure, on partira à Berlin avec retrouver François Sorel. Petit souci technique. La série de tous les records Amazon lance aujourd'hui The Ring of Power, la première adaptation télévisée de l'univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Le géant du commerce compte frapper un grand coup. Il y a quand même mis sur la table 700 millions de dollars pour cette série. Ça en fait quand même la série la plus chère de tous les temps. Et Simon Tenenbaum ou pas? Peut-être.
Et oui, Jeff Bezos, grand fan lui-même de l'œuvre de Tolkien, n'a visiblement fixé aucune limite pour produire la première série inspirée du Seigneur des Anneaux. Dès la genèse du projet en 2017, Amazon explose les compteurs pour l'emporter face à Netflix et HBO. Le groupe lâche 250 millions de dollars pour les droits d'adaptation, 4 fois plus qu'espéré par les ayants droit. Le tournage de la première saison en Nouvelle-Zélande, en partie perturbé par le Covid, aura duré plus d'un an pour une facture de 465 millions de dollars. C'est 60% de plus que le budget de la trilogie du Seigneur des Anneaux sorti au cinéma et plus du double comparé à la nouvelle série HBO House of the Dragon. Amazon, qui s'est engagé sur 4 saisons supplémentaires, espère tenir sa première grande franchise capable de rivaliser avec Star Wars, Game of Thrones ou Stranger Things. Assis sur 37 milliards de dollars de cash, Amazon compte bien changer de dimension dans le streaming. Au moment où Netflix connaît sa première crise de croissance, le groupe de Jeff Bezos va lui accélérer ses investissements.
On a retrouvé François Sorel. Il est depuis l'IFA à Berlin. C'est là où il faut être. François, pour quelle raison ?
Et en effet, après 2 ans d'absence, l'IFA revient et on a l'impression que cette pandémie a tout changé. D'habitude, l'IFA, c'est un salon qui fait la part belle au spectacle, à la technologie un peu démonstrative. Là, les constructeurs d'électronique grand public présents sont plus discrets et essaient de trouver des innovations qui servent à l'humain et notamment à l'environnement. C'est le cas de Samsung qui présente ici un électroménager intelligent qui, grâce à l'intelligence artificielle, mais aussi à l'aspect connecté, eh bien, consomment moins d'électricité. C'est le cas pour les fours, par exemple, mais aussi beaucoup moins d'eau pour les machines à laver. Voilà les grandes tendances. Et bien évidemment, tout au long de la semaine prochaine, on aura l'occasion de creuser un petit peu les nouveautés présentes ici à Berlin.